Enfin, mais juste avant, on parlait de cette tension qui règne évidemment sans arrêt avec cette menace nucléaire. Autre tension qui nous occupe régulièrement, Élise Gosset. Tension à la télé russe, évidemment, l'émission de Soloviev. Le grand délire de la télé russe et de l'émission de Soloviev se poursuit. Soloviev veut, allez, tout bombarder, y compris se débarrasser de la France et de l'Allemagne.
L'Allemagne a remis ses systèmes de défense aérienne, donc on peut facilement frapper le territoire allemand. La Grande-Bretagne a donné ses systèmes de défense aérienne, donc c'est facile de frapper la Grande-Bretagne. La France est à poil grâce à Macron. Alors, quel est le problème? D'où vient Stoltenberg, le Norvégien? Nous devons frapper à leur porte. Où est-il danois? Ils prennent les passeports de certains Danois et d'autres Suédois. Alors, frappons doucement et demandons, avez-vous été grossier avec nous? Sortez et alignez-vous.
Sortez et alignez-vous. Il pointe quand même une chose. C'est à quel point nos armées ont fourni du matériel militaire à l'Ukraine. Et il le dit, alors dans son langage fleuri, la France est à poil. On s'est dépoilé d'une certaine manière, Élise Gosset, en partie.
Alors ça, c'est, je vais pas du tout être d'accord à ce que dit Soloviev. Je pense qu'il délire complètement et qu'il est dans une logorée verbale, propagandiste, etc. On a eu hier sur ce plateau un décryptage d'une journaliste russe qui avait travaillé pendant 20 ans à la télévision et qui nous a raconté comment le Kremlin donnait les grandes lignes de la propagande justement aux animateurs de télévision. Il n'est pas crédible. Hier, il nous disait, il n'y aura jamais de tribunal de la haie. Le jour où ça se produira, le monde sera réduit en cendres. Aujourd'hui, il nous dit que la France et l'Allemagne sont incapables de faire la guerre et qu'on peut les écraser facilement. Ça, si vous voulez, c'est pas réaliste, c'est pas tenable, c'est presque ridicule. Le seul problème, et d'ailleurs, ce que nous disait cette journaliste hier, c'est que l'audience de Soloviev chute dangereusement. Il a perdu 25% de taux d'audience depuis le début de la guerre. C'est-à-dire que les Russes aussi sont un peu fatigués de ces balivernes.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il appuie là où ça fait mal et il suit non seulement BFM TV.
On en a parlé hier. Ah, vous avez raté ça, Rosine Bachelot. Mais oui, évidemment. Il suit les interviews que nous faisons des responsables russes, etc. Il les commente ensuite.
Collecte l'argent pour la lutte contre le cancer, je ne peux pas tout faire.
Oui, mais donc, ce soir, c'est déjà pas mal.
On voit qu'il suit les débats en cours parce qu'il appuie où ça fait mal. Vous vous souvenez, au moment où il y avait l'opinion publique qui était un peu remontée parce que les prix de l'énergie avaient augmenté et il y avait eu des faux reportages à la télé russe pour montrer que tout le monde avait froid en France, qu'on allait se les geler en hiver, etc. Et là, il y a ce débat en ce moment, effectivement, dans des grands journaux français pour dire que, attention, les armées occidentales ne sont pas assez bien fournies. Il suit tout ça et il essaie d'appuyer où ça fait mal.
Le chef d'état-major français devant l'Assemblée nationale, en juillet dernier, a pointé du doigt le fait que si on fournissait trop d'armes, on entamait aussi nos réserves, par exemple.
Je ne dis pas qu'on est incapable de se défendre, bien sûr. Bien sûr, mais le problème, c'est que qui est le plus à poil actuellement, ce sont les Russes, qui a perdu.
Il fait son Soloviev.
Bien sûr. Les Russes sont actuellement infiniment moins capables de nous attaquer qu'avant le 24 février. Très largement. Ils avaient 2000 missiles de balistiques ou de croisières. Ils en restent 600. Ils sont obligés de détourner tous les engins qu'ils avaient pour tirer sur les navires, par exemple. Ils sont obligés de les utiliser pour frapper sur les Ukrainiens. Non, l'armée russe est infiniment plus faible qu'elle ne l'était.
Moi qui suis un profane, quand je lis dans la presse qu'on a fourni des batteries Crotale, je ne sais plus combien,
4 ou 5, et que nous
n'en avons que 13 ou 14. Et ces batteries Crotale, elles ne reviendront pas en France. Donc en réalité, on peut quand même, quand on n'y connaît rien, se dire qu'effectivement, tout ce qu'on fournit, c'est pour on ne le récupérera pas.
Et ça nous a fait vivre. De temps en temps, on invite des gens qui sont censés connaître cette partie pour pouvoir répondre à la question que pose le présentateur qui dit, au fond, est-ce que vous êtes dépoilé? Pas du tout. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on n'avait pas grand-chose. Donc, ce qu'on a donné aux Ukrainiens ne va pas nous manquer énormément.
Quand on a juste un slip et qu'on l'autre, c'est pas complètement ça.
Rassurant ce que vous nous dites là, Guillaume Ancel.
Attendez, je vais jusqu'au bout. Quand on dit on va donner des batteries de missiles Crotale aux Ukrainiens, il faut savoir qu'un missile Crotale, c'est fait pour tirer jusqu'à 10 km. Et c'est pas avec ça qu'on intercepterait un missile de croisière russe.
Donc, on protège des bases, je crois, en France.
On ne protège pas grand-chose avec. L'armée française a été transformée en corps expéditionnaire. C'est sans doute le corps expéditionnaire le plus habile et expérimenté aujourd'hui de toute l'Europe, Grande-Bretagne inclus. Mais clairement, l'armée française n'est absolument pas destinée aujourd'hui pour ce genre de guerre. Par contre, ce qu'on a toujours gardé, et à ma connaissance, on n'en a pas donné aux Ukrainiens, c'est les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui, eux, sont notre seule garantie vis-à-vis d'un coup de folie de la Russie qui va dire « mais est-ce que je suis capable d'attaquer ?» de savoir qu'elle serait irrémédiablement détruite. C'est pour ça que je me permettais de dire tout à l'heure, il n'y a pas de guerre avec le nucléaire. Le nucléaire, c'est la fin, parce qu'on a une capacité qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été démentie à pouvoir raser la plus grande partie du pays qui nous agresserait avec l'arme nucléaire. Les Grandes-Bretagnes ont la même chose, et les Américains ont la même chose, déployée en partie en Europe. Et par conséquent, sur la question du nucléaire, on ne s'est jamais déployé. Par contre, sur la question de la guerre sur le terrain face à des forces blindées, classique, il y a deux choses, c'est que les Européens n'ont quasiment plus rien, il n'y a que les Américains qui ont conservé une force significative, et que les Russes n'ont quasiment plus rien maintenant, parce qu'ils ont tout cramé dans cette guerre en Ukraine. On se souvient que quand la Finlande a annoncé qu'elle voulait rentrer dans l'OTAN, les Russes ont dit « on va réagir », et à ce moment-là, pour la première fois, je crois, en 40 ans, tout le monde s'est marré dans l'OTAN en disant « réagir avec quoi ?»
Donc pour revenir à Soloviev, c'est le fou du roi, c'est le fou de Poutine qui est chargé d'entretenir les esprits nationalistes les plus radicaux, mais qui représente finalement assez peu de choses. Non, l'image sérieuse, c'est pas celle de la télé russe, c'est celle de l'état-major russe qui est réuni en grande pompe et qui n'a pas du tout donné de signe de reddition. Et même quand on voit cette image de tous ces chefs d'état-major réunis, on voit mal ces généraux russes se rendre face à l'Ukraine, qui est décriée depuis tant d'années.
Le doigt sur la couture du pantalon, on imagine que c'est le premier bien qui moufle, il se fait...
Bien sûr.
Passé par les armes, oui.
On parlait de tout ce qu'avait tiré, vous en parlez, Colonel Goya, la Russie sur l'Ukraine. On en a la preuve visible. Regardez ces images très impressionnantes. On est du côté de Kharkiv. En l'occurrence, c'est ce cimetière des missiles. Il n'y a sans doute pas que des missiles russes dans ce cimetière-là.
C'est les roquettes multiples.
Je vous vois venir, Guillaume Ancel. Il n'y a pas que des missiles, il n'y a pas que des armes russes, il y a aussi des armes ukrainiennes. Encore une fois, on est du côté de Kharkiv. Mais ça montre, Colonel Goya, à quel point cette guerre est gourmande en obus, en missiles, etc. Et à quel point elle va continuer à l'être. Et à quel point on va devoir continuer à faire des efforts pour maintenir cet effort de guerre-là.
J'ai calculé, dans la guerre en Ukraine, il y a deux zones. Il y a la zone du front et qui va sur à peu près 60 km. C'est là où on peut frapper avec tout ce qu'on a. Et puis, il y a le reste, c'est la zone des missiles, où les Russes ne peuvent employer que des missiles. Dans cette zone première, la bordure du front, on peut estimer que les Russes ont lancé entre 15 et 30 000 tonnes d'explosifs. C'est la Hiroshima.
Voilà, c'est l'équivalent d'Hiroshima.
Voilà, c'est Hiroshima qui a été lancé tout le long de la ligne de front, dont les villes qui sont dans cette bordure, dont Kherson, par exemple, actuellement. Le reste, dans le reste de l'Ukraine, tous ces missiles que l'on voit et sur lesquels on parle beaucoup, ce qui est normal, c'est beaucoup très spectaculaire, ça représente à peu près 1000 tonnes. C'est un kilotonne. Ce qui ravage l'Ukraine, ce qui ravage ces villes, c'est en réalité c'est ça, c'est l'artillerie, c'est les obus, c'est le lance-roquettes qu'on envoie par milliers. Une ville comme Mariupol simplement a dû prendre elle-même autant d'explosifs que tout le reste de l'Ukraine à l'intérieur de cette zone des missiles, très largement même. Et donc oui, c'est une guerre qui est très meurtrière bien sûr, qui est très consommatrice. En munitions, ce type de conflit très meurtrier, c'est soit très court, soit très long. Très court parce qu'il y a un camp qui s'impose très vite et ça se termine en quelques semaines, voire en quelques jours. Mmh. Et s'il n'y a pas de camp qui s'impose, tout le monde s'enterre, se protège, etc. Et puis ça devient une guerre de position et ça devient, pour le coup, extrêmement long. Et dans ce cas-là, se pose effectivement la question de l'alimentation de cette guerre. Particularité, c'est que ces deux pays, la Russie et l'Ukraine, disposaient de stocks énorme de l'armée rouge. Donc, ils ont vécu sur les stocks. C'est ce qui leur a permis, et qui leur permet toujours, de continuer cette guerre sur des mois et des mois et des mois. Maintenant, ces stocks ne sont pas inépuisables. sachant que de part et d'autre, d'ailleurs, la production elle-même est relativement limitée. Et puis, nos stocks non plus, on l'a vu, ne sont pas non plus inépuisables. Donc là, maintenant, toute cette consommation se réduit mécaniquement. À l'été, les Russes lançaient 60 000 obus par jour. Maintenant, ils lancent plus que 20 000. Donc déjà, ils réduisent, ce qui réduit les combats, ce qui réduit aussi les Ukrainiens, c'est pareil, dans la même proportion. Mais ça peut amener aussi une transformation des combats. Ça peut, au contraire, faciliter le retour à des combats de manœuvre. Et donc à des combats qui seront peut-être plus décisifs. Voilà, c'est comme ça que les choses se transforment dans une guerre industrielle de longue durée. Et puis un deuxième temps, si la production effectivement se met en, parce qu'il faut du temps. Alors on en parle beaucoup, de nos stocks limités, mais derrière on dit ben voilà, du coup au lieu de faire de l'artisanat, on va refaire un peu de l'industrie, reproduire un peu en masse. Ça se fait pas comme ça. Ça demande des mois et parfois des années pour.
Avec un élément supplémentaire, avec un chiffre qui a été donné cette semaine par le New York Times, qui était de dire que environ un tiers de l'artillerie occidentale fournie aux Ukrainiens. Ouais. Est aujourd'hui hors d'usage, parce que la guerre, ça use évidemment le matériel et qu'il y a un tiers de cette artillerie qui doit être remplacée déjà.
Alors, je vais dire deux choses contradictoires. La première, c'est que le fait qu'il y ait un tiers d'indisponibilité sur l'armement, c'est normal.
Oui, c'est classique.
C'est classique, c'est-à-dire dans tous les parcs d'armement, et c'est la même chose du côté russe, quand vous avez 100 matériels, en réalité, vous en avez 60-70 qui fonctionnent. Il y en a 30 qui sont en permanence en panne, à réparer, à améliorer, qui sont à bout de course, qui sont etc. Donc, le fait qu'on soit à deux tiers de disponibilité n'a absolument rien de choquant. Par contre, il y a un phénomène qu'on connaissait, mais que là, on voit dans les grandes dimensions, c'est que les matériels occidentaux qui ont été livrés à l'Ukraine, je ne parle pas des vieux matériels qu'on avait dans des stocks de l'armée soviétique, des pays de l'Est. Les matériels modernes sont des matériels beaucoup plus fragiles. Et c'est un reproche qui a été fait énormément aux armées occidentales, c'est de faire du matériel très sophistiqué, léger, pour le cas des Français qui ont voulu faire uniquement du matériel aérotransportable, qu'on puisse mettre dans un avion, et qui fait que les canons qu'on produit aujourd'hui ont été à peu près réduits de l'ordre du tiers à la moitié en termes de masse. Et ce sont des canons beaucoup plus légers, qui s'usent plus vite, qui ont besoin d'utiliser des munitions assez sophistiquées, même si facialement les calibres sont les mêmes, parce que c'est du matériel de très grande pointe technologique. Mais le fait que il y a un phénomène d'usure, n'est pas un phénomène d'usure anormal. C'est un mécanisme qu'on connaissait bien. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les Français ne peuvent pas livrer de chars Leclerc aux Ukrainiens. C'est qu'en réalité, la maintenance du char Leclerc est beaucoup plus importante que le matériel lui-même. Il faudrait inventer toute une chaîne logistique qui serait trois fois plus importante que le simple fait de livrer ces chars-là. C'est pour ça qu'il y a des équilibres qui sont compliqués. Et comme le rappelait Michel, ces affaires de guerre qui durent, ça devient uniquement une affaire de logistique. Après, qui est capable d'approvisionner et de fournir des stocks suffisants pour...
Je donne juste
un point de comparaison, si vous permettez, pour illustrer ce que disait Michel sur la différence entre des tirs massifs d'artillerie et un missile. Un missile de croisière classique, ça emporte une charge de l'ordre de 400 kilos, c'est l'équivalent de 10 obus d'artillerie. Or, comme le rappelait Michel, sur le front, les Russes ont tiré jusqu'à 60 000 obus d'artillerie par jour, là où quand ils tirent une vague de 70 missiles, on dit « Ah, c'est une vague épouvantable pour l'Ukraine ». En réalité, les Ukrainiens vous disent « Dispatcher sur l'ensemble de l'Ukraine, c'est terrible, ça fait quelques morts et quelques blessés supplémentaires ».